Voilà, donc quelques statistiques sur l'état de la jeunesse dans notre pays, en France. 25%, donc le quart des jeunes de 17 ans fument quotidiennement. Plus de 90% des jeunes de 17 ans disent avoir déjà expérimenté une boisson alcoolisée. Et 59%, donc des jeunes de 17 ans, disent déjà avoir été ivres. Et alors, on a un triste record en France, c'est que la moitié des 15-19 ans a déjà pris du cannabis. Et à l'âge de 16 ans, les jeunes français sont actuellement les premiers consommateurs en Europe. Alors, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui montrent que l'ennemi de nos âmes, le diable, travaille à la destruction des jeunes, des enfants et des familles. Et nous sommes dans un véritable combat spirituel où il n'y a pas de neutralité. Tout dépend comment on nourrit l'enfant. Si l'enfant n'est pas nourri avec la parole de Dieu dès son plus jeune âge, c'est le monde qui va lui donner une nourriture, mais une nourriture empoisonnée, celle-là. Et qui risque de le rendre malade spirituellement et moralement pendant une grande partie de sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Et le plus tôt sera le mieux. Et Dieu ne veut pas cela, parce que Dieu a un cœur pour les enfants. Et je vous propose de voir justement quelle est sa volonté pour les enfants, parce qu'elle est très claire dans sa parole. Et je vous invite à prendre avec moi le psaume 78. C'est un long psaume, qui est un grand chant de l'histoire d'Israël. On va pas prendre tout le psaume, on va prendre les 8 premiers versets, déjà qui en disent long sur le cœur de Dieu pour les enfants. Psaume 78, donc les 8 premiers versets. Et avant ça, je vais prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir laissé ta parole, Seigneur. Elle nous nourrit et elle nous indique, Seigneur, tes instructions. Et nous te demandons, Seigneur, que ta parole agisse dans nos vies. Seigneur, que tu nous donnes la volonté et d'accomplir ta parole, de nous y conformer, d'y conformer notre vie, de t'obéir. Merci, Seigneur, de nous conduire et de nous aider à recevoir ta parole, de nous donner le cœur et l'intelligence de la recevoir par ton esprit. Donc, psaume 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Et vous pourrez lire la suite du psaume à la maison si vous voulez. En tout cas, je vous y invite. Un psaume donc qui montre le cœur de Dieu pour les enfants et son but pour la nouvelle génération. Quel est-il son but? Son but, c'est que Dieu veut être connu. Il veut que la jeune génération, et la vieille génération aussi, il veut être connu de tous. Il veut être connu, lui, son caractère, sa personne, et ce qu'il a fait, c'est-à-dire ses œuvres, et ce, de génération en génération, et en génération, et en génération. Il veut pas que ça s'arrête. Dieu veut qu'on le connaisse. Et s'il veut qu'on le connaisse, c'est possible. Il nous a tout donné pour cela. Et bien sûr, je vais y revenir, il nous a donné son Fils. Et il a une stratégie pour atteindre son but. Cette stratégie, c'est une, on peut appeler ça, je suis pas mécanicien, mais s'il y a des mécaniciens, ils comprendront. Sa stratégie, c'est une chaîne de transmission. Et nous allons voir justement la chaîne de transmission de Dieu. En 3 points, nous verrons premièrement quel est le but de sa chaîne de transmission. Deuxièmement, nous verrons comment est constituée cette chaîne, quels sont les maillons de cette chaîne de transmission. Et troisièmement, nous verrons qu'est-ce qui fait la solidité de cette chaîne de transmission, parce qu'il faut qu'une chaîne de transmission, elle soit solide. Donc premièrement, voyons le but de la chaîne de transmission de Dieu. Et Dieu a un cœur pour les enfants. Par quoi commence ce psaume ? Il nous invite, verset 1, à tendre l'oreille. Dieu a quelque chose d'important à te dire. Écoute. Écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 1. Il a quelque chose d'important à dire à qui ? Écoute mon peuple, à son peuple. Qui est son peuple ? C'est vous, c'est moi, c'est l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Nous qui l'avons accepté. Et toute l'Église est concernée. Écoute mon peuple. Toute l'Église est concernée concernant les enfants. Et invité à écouter, et pas seulement, puisque ça touche les enfants, pas seulement les moniteurs, pas seulement les monitrices, pas seulement les parents. Toute l'Église est concernée, y compris les célibataires, y compris les jeunes, y compris les moins jeunes, toute l'Église. Et quel est ce sujet si important dont Dieu veut nous faire part ? Est-ce que c'est nouveau ? Non. Il s'agit de, je cite, « la sagesse des temps anciens ». Ça veut dire quoi, la sagesse des temps anciens ? Eh bien, la sagesse qui prévalait dans les temps anciens, elle prévaut encore aujourd'hui en 2022. Et elle prévaudra toujours éternellement. Pourquoi ? Parce que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu est le même, il reste le même. Notre société change, ses valeurs changent. Ce qui était condamné avant-hier est devenu toléré hier et est devenu encouragé. Aujourd'hui, la société change, elle évolue, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas même si la nouvelle génération a ses codes, sa propre culture, qui est parfois difficile de percer, de rejoindre. Quand vous essayez de comprendre des jeunes, c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Croire en Dieu aujourd'hui, en 2022, mais c'est dépassé. En tout cas, c'est ce que voulait dire la personne. Mais Dieu nous dévoile sa volonté pour chaque nouvelle génération. Et il nous dévoile son but, et son but, il est triple. Il est triple. Il a un triple but, et son but, il est dans le verset 7. Regardons ensemble le verset 7. Quel est son but ? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements. Un triple but. Premièrement, qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Deuxièmement, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et troisièmement, qu'ils observent ses commandements. Dieu veut être connu, lui et ses œuvres, de génération en génération, donc à commencer par la nouvelle génération, celle qui est là en ce moment. Cette jeune génération qu'il veut protéger, Dieu veut protéger les enfants. Cette génération qu'il nomme la génération future. Versets 4 et 6, deux fois, il nomme la génération future. La génération future, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Et les enfants d'aujourd'hui, souvent on entend dire, les enfants d'aujourd'hui sont l'Église de demain. Non. Les enfants d'aujourd'hui, ils sont peut-être les responsables de demain, oui, pour certains. Mais ils sont déjà appelés à faire partie de l'Église d'aujourd'hui. De l'Église d'aujourd'hui. Et on voit bien le cœur de Dieu pour les enfants. Nous, on a notre logique, ils sont trop petits. Non, Dieu voit pas les choses comme ça. Il veut que les enfants d'aujourd'hui le connaissent au plus tôt et fassent partie de son assemblée. De son Église. Le but premier de Dieu, début du verset 7, c'est pas d'obéir, même si c'est important, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est que les enfants mettent en Dieu leur confiance. Autrement dit, son premier but, c'est que les enfants croient en lui et le connaissent. Et pour cela, eh bien, il a besoin d'une chaîne de transmission. Il veut que nous transmettions à la jeune génération ce que nous savons de lui, c'est-à-dire qui il est, ce qu'il nous a dit de lui dans sa parole, et ce qu'il a fait, sa personne et ses œuvres. Sa personne et ses œuvres. Le verset 4 le dit très clairement, nous dirons à la génération future, quoi ? Les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Alors aujourd'hui, elles sont où, sa puissance, ses prodiges qu'il a opérés ? Pour Israël, il en a fait. L'Exode, Dieu a manifesté des miracles, des prodiges. Il a manifesté sa puissance lorsqu'il a libéré les Hébreux de l'esclavage des Égyptiens. On pense aux 10 plaies d'Égypte. On pense à la mer fendue en deux pour laisser passer le peuple. Et ce sont des faits. C'est pas une fable. Ce sont des choses qui se sont vraiment passées. Pourquoi ? Parce que Dieu vous laisse faire un peuple. Et comment il s'y est pris? Eh bien, il a d'abord voulu susciter, avant de susciter en eux l'obéissance, il a d'abord voulu susciter en eux l'adoration. Il les a délivrés de l'esclavage. Dieu voulait d'abord susciter chez les Hébreux la louange pour ses hauts faits et pour sa délivrance miraculeuse, pour en faire son peuple. Premier but, qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Deuxièmement, le deuxième but de Dieu pour les enfants et pour nous tous, au verset 7 du psaume 78, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Et on a tous un problème, c'est qu'on oublie facilement, n'est-ce pas? On oublie facilement. Et ici, nous sommes mis en garde contre l'ingratitude, le danger d'oublier ce que Dieu a fait par le passé. Comme les Israélites ont oublié si facilement comment Dieu les avait délivrés, miraculeusement des Égyptiens. Et le psaume 78 en dit long là-dessus. L'ingratitude des Hébreux, qui avaient oublié. Alors, pour nous éviter l'oubli, eh bien Dieu a une stratégie. Sa stratégie, c'est sa chaîne de transmission. Alors, voyons plus en détail quelle est cette chaîne de transmission. Voyons de quoi est constitué le maillon de la chaîne de transmission de Dieu. Et déjà, quel est l'enjeu ici? Une chaîne de transmission, même si vous n'êtes pas mécano, une chaîne de transmission, il y a des maillons, et ça fait tourner, effectivement, ça entraîne le moteur, entraîne les autres pièces. Je suis pas un expert, mais en tout cas, les maillons sont reliés entre eux. Imaginez qu'il manque un des maillons à cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe? C'est tous les maillons suivants qui vont pas fonctionner, qui vont plus être entraînés. Un seul maillon qui manque, tous les maillons suivants ne fonctionnent plus. Et ben c'est pareil pour les générations. Si une génération ne transmet pas le flambeau de l'Évangile, c'est toutes les générations suivantes qui ne connaîtront pas l'Éternel. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas qu'il manque un maillon à sa chaîne. Il a un plan pour les enfants dès leur plus jeune âge. Et souvent, dans notre logique, on se dit, oui, ils sont trop jeunes, c'est quand ils seront plus grands. Mais non, c'est pas la logique de Dieu. C'est pas une fois devenus grands qu'il faut leur parler de Dieu. Sous prétexte qu'ils sont trop jeunes pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'une fois devenus grands, c'est eux qui parleront à leurs enfants de Dieu. Ce que dit le verset 6, c'est très clair. Le verset 6, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient. C'est très tôt, hein? C'est très tôt. Après, une fois devenus grands, ils transmettent ce qu'ils ont reçu. Alors la question se pose, puisque nous étudions quel est ce maillon de cette chaîne de transmission. À qui revient la responsabilité première de transmettre la parole de Dieu aux enfants? En d'autres termes, qui sont les maillons de cette chaîne? Est-ce que c'est l'Église? Est-ce que c'est les moniteurs, l'école du dimanche? Non, c'est pas ce que dit le texte, même si l'école du dimanche est importante. Verset 3, la réponse est au verset 3, ce que nos pères nous ont redit. Autrement dit, transmettre la parole de Dieu aux enfants, ça commence à la maison. C'est Calvin qui a dit que les foyers, ce sont des petites cellules, ce sont des petites églises, les foyers. Chaque foyer est appelé à être une petite église, chaque foyer chrétien. Et vous remarquerez plus précisément que le texte dit les pères. Il dit pas les parents, même si la mère a un rôle important. Il y a des proverbes qui parlent du rôle de la mère dans l'enseignement des enfants. Mais en premier ici, il est question des pères. Et le texte est fort parce qu'il s'agit d'un ordre. Un ordre qui est adressé aux pères. Alors, ça peut-être, je sais pas comment vous vous sentez, vous les pères, les jeunes pères en tout cas, peut-être ça peut sembler lourd comme tâche. Mais, quand Dieu donne un ordre, parce qu'il s'agit d'un ordre ici, il donne les moyens de l'accomplir. Regardez le verset 5, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est pas une option. C'est pas une option, c'est un ordre. Mais on va voir que avec lui c'est possible. Je sais pas si vous... Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Courageous? C'est un film qui est sorti. Oui, voilà. C'est un film que je vous recommande qui retrace l'histoire de quatre papas policiers qui sont bien pris dans leur métier. Effectivement, hein, métier de policier, c'est pas de tout repos. Et un des quatre va perdre sa fille dans un accident, et son plus grand regret, c'est de n'avoir pas passé assez de temps avec sa fille. Mais c'est trop tard, sa fille n'est plus. Alors, suite à cela, les quatre pères vont signer un engagement écrit, à ne pas négliger sa famille. Parce que trop souvent, les enfants tournent mal à cause de l'absence des pères, à cause de l'absence des parents, aussi à cause de l'absence des mères. Et que ce soit aux États-Unis ou ici. Alors, dans la société juive primitive, comment ça se passait? C'était surtout la mère qui était présente dans les premières années de la vie de l'enfant. On peut dire jusqu'à l'âge à peu près de 5 ans. Instinct maternel oblige, ça ne s'apprend pas. Là, les mamans savent déjà ce qu'il faut faire avec leurs enfants. Le père, lui, il prend progressivement sa place au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et c'est dès l'âge de 5 ans, sans en faire une règle, que le rôle du père se confirme, se clarifie. Et des études modernes ont montré que la personnalité de l'enfant, elle est formée à 50% entre 3 et 4 ans. La personnalité de l'enfance qui va être plus tard, elle est formée à 50% entre 3 et 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut que l'enfant soit instruit dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge. Pourquoi? Parce que plus on attend que l'enfant grandisse, ben plus ça va être difficile. Ça va être difficile. Lorsqu'on regarde les ados, s'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur, ça va être difficile pour les parents d'essayer de rattraper. Alors autant s'y prendre le plus tôt possible. Tout possible. Alors oui, les parents, le premier rôle appartient aux parents. Et maintenant l'Église, quel est le rôle de l'Église dans l'enseignement des enfants? Eh bien, regardons, c'est clair aussi, plus précisément les versets 3 et 4. Je relis les versets 3 et 4 du psaume 78. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. » Il n'est pas dit à nos enfants, ça va de soi, déjà d'enseigner ses propres enfants. Mais là, c'est plus large. Ça concerne aussi les enfants des autres, à leurs enfants. Il s'agit d'instruire tout le peuple, pas seulement ses propres enfants. Et c'est là qu'intervient l'école du dimanche. L'école du dimanche, il y a parfois une méprise sur l'école du dimanche. On dit ça, c'est le boulot de l'école du dimanche pour instruire mes enfants. Non, elle est là, l'école du dimanche est là en complément. En complément pour aider le travail des parents. Pour aider, pas pour le remplacer. Et ça concerne tout le monde. Ne dites pas « je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je peux pas comprendre ». J'ai commencé à travailler avec l'association Évangile Enfance, j'étais pas encore marié, hein. Je me suis marié bien plus tard. Et j'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, j'en ai adoptif, je peux dire, voilà, avec Brigitte. Les grands enfants. Ne dites pas « je suis célibataire ». Je n'ai pas d'enfant, c'est pas pour moi. Ne dites pas je suis un homme, c'est réservé aux femmes, aux mamans. On parle beaucoup d'égalité aujourd'hui, égalité d'homme-femme. Et là, dans ce cas-là, le rôle d'enseigner les enfants, il concerne non seulement les mamans, mais les papas aussi. On a parfois des clichés, hein, qui déteint sur nous. Au verset 4, eh bien, nous avons une exhortation de ne pas cacher la parole de Dieu aux enfants. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Il insiste là, le psalmiste. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Est-ce que parfois on ne cache pas la parole de Dieu aux enfants? Plusieurs moyens, c'est très facile de cacher la parole de Dieu aux enfants dans une famille. Déjà, en vivant le contraire de ce qu'on dit. On fait une promesse, on ne la tient pas. Alors que Dieu tient toujours ses promesses. Et les enfants, ils nous observent. Et on n'enseigne pas seulement par ce qu'on dit, mais par ce qu'on est, par nos personnes. L'enfant, c'est un imitateur. Il va imiter l'enfant, il va se construire en imitant. Et il a besoin de modèles, puisque c'est un imitateur. Alors autant que les modèles soient bons, même si les parents, personne n'est parfait. Et on a tous besoin de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La première Bible que l'enfant va lire, c'est vous les parents, parce que vous êtes tous les jours avec eux, même si vous n'êtes pas parfait. Lorsque vous, parents, vous lisez votre Bible, lorsque vous vous isolez pour lire votre Bible, pour avoir votre moment de culte personnel avec le Seigneur, ne vous cachez pas des enfants, Dites simplement que vous ne voulez pas être dérangé, mais faites savoir à vos enfants que vous avez votre moment avec le Seigneur. Vos enfants vous observent et vous les influencez. Que vous le vouliez ou pas, vous les influencez, en bien ou en mal. Ce que vous faites devant eux, ils s'en rappelleront toute leur vie, toute leur vie. Il y a des paroles de ma mère dont je me rappelle, parce que je sais que c'est de bonnes choses, et je m'en rappelle aujourd'hui qu'elle m'a dit quand j'étais beaucoup plus jeune. On peut dissimuler la parole de Dieu en vivant le contraire de ce qu'on dit. Bien sûr, on peut dissimuler la parole de Dieu tout simplement en n'en parlant pas, en la taisant dans les familles. Et je vous pose la question, je ne vous demande pas de répondre, mais réfléchissez-y. Combien d'entre nous avons un culte famille quotidien à la maison ? Culte famille, ça peut peut-être faire peur à certains. Combien avons-nous un culte famille, conjoint et enfants réunis, tous ensemble, toute la famille réunie, quotidien ? Il y a une enquête aux États-Unis, mais je crois que c'est aussi vrai en France, qui a révélé ceci. C'est une citation que je tire du livre « Lire, prier, chanter en famille » de Donald Whitney, page 9. Je vous recommande ce livre. « Lire, prier, chanter en famille ». Et voici ce qu'il dit, aux États-Unis donc. 85% des parents ayant des enfants en dessous de 13 ans sont d'accord pour dire qu'ils sont responsables pour leurs propres enfants en ce qui concerne la religion et les questions spirituelles. Néanmoins, la vaste majorité des parents ne passent aucun temps dans une semaine typique à parler de la religion ou à l'étudier avec leurs enfants. La plupart des parents comptent sur l'église locale pour la formation spirituelle de leurs enfants. Fin de citation, donc, de son livre. Alors, eh bien, il faut se mettre à l'évidence. Et en France, parfois, eh bien, beaucoup, je me demande si beaucoup, tant de familles que ça, ont un culte famille avec leurs enfants. Quand j'entends qu'il faut pas trop leur en parler, qu'il y a des scènes de l'Ancien Testament qui sont difficiles, qui sont... Pourtant, la parole de Dieu est claire. Alors, le psaume 78 fait constat d'un échec. Et il faut bien en parler, cet échec. Avant la bonne nouvelle, il faut parler de la mauvaise nouvelle. Le psaume 78 fait le constat d'un échec. La transmission ordonnée par Dieu, déjà dès la sortie d'Égypte, ne s'est pas bien passée. Au verset 8, le verset 8 parle d'une, je cite, « une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu ». Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une génération qui ne connaît pas Dieu ? En France. Toute la suite de ce long psaume 78 raconte comment Israël est resté rebelle, désobéissant à l'Éternel et même ingrat envers lui. Malgré tous ses bienfaits, malgré sa délivrance, malgré tous les témoignages de son amour et les évidences de sa grâce et de sa bonté déjà présents dans l'Ancien Testament pour Israël. Le peuple est resté rebelle et désobéissant. Et il s'agit là d'une énigme. D'une énigme. Le mot traduit par sagesse au verset 2 peut aussi se traduire par énigme. Le verset 2 dit qu'il publie la sagesse des temps anciens. Ça veut dire aussi une énigme. Et voilà de quelle énigme il s'agit. Les exploits de Dieu pour se faire connaître aux Hébreux n'ont pas suffi à quoi faire, n'ont pas suffi à changer leur cœur. La joie, la louange de la délivrance, elle était bien là, mais elle n'a pas duré. Les Hébreux ont échoué. Ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Regardons son triple but, fin du verset 7. Premier but, qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Deuxièmement, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Donc que la transmission se fasse, que les enfants connaissent la parole de Dieu. Et le troisième, la fin du triple but. Et ça vient en dernier, remarquez bien, qu'ils observent ces commandements. Les Hébreux n'ont pas obéi. Ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Il n'y a pas qu'eux. Nous aussi parfois, n'est-ce pas ? Le troisième du triple but de Dieu, verset 7, c'est qu'ils observent ces commandements. Autrement dit, qu'ils obéissent. Qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et vous avez remarqué, dans la pédagogie de Dieu, l'obéissance, elle vient en dernier. Parce que pour pouvoir obéir à Dieu, il faut d'abord le connaître, il faut l'aimer. Il n'a pas dit d'abord tu obéis et après tu crois. Non, c'est pas ça. Là, c'est d'abord tu crois. Regarde ce que Dieu a fait et après tu obéis. et la parole se transmet. L'obéissance vient en dernier dans ce que Dieu demande. Le psaume 78 dit de transmettre en premier les louanges de l'Éternel, ce qu'il a fait avant de transmettre la loi. Dans ce psaume, il est question des prodiges de l'Éternel, il est aussi question de la loi de l'Éternel. Il dit de transmettre en premier les louanges de l'Éternel avant de transmettre la loi. Parce que ce n'est qu'après avoir libéré les Hébreux de l'esclavage que Dieu a donné la loi. Verset 5, il a mis une loi en Israël. La loi est venue après la délivrance, pas avant. C'est après qu'il a donné les 10 commandements. Il a donné les 10 commandements pour que sa loi soit observée. Les 10 commandements, c'est la loi morale de Dieu et elle est toujours valable. Elle est toujours valable, mais elle ne sauve pas. Elle ne rend pas parfait. Elle ne suffit pas. La preuve, les Hébreux n'ont pas eu leur cœur transformé. Ils n'ont pas su observer les 10 commandements. Elle ne suffit pas à nous sauver, même si elle est bonne. Et Dieu voulait que les Hébreux se distinguent des autres peuples par l'obéissance à sa loi. C'est l'obéissance à la loi morale de Dieu qui devait dire, eux, c'est le peuple de Dieu. Et c'est pareil pour nous. L'Église, on doit se différencier de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes appelés à refléter qui est Dieu. De même que la louange vient avant la promulgation de la loi, eh bien, la foi doit venir avant l'obéissance. Pour obéir, il faut la foi. On ne peut pas inverser. De même que la louange vient avant la promulgation de la foi doit venir avant l'obéissance. Parce que c'est plus facile d'obéir à quelqu'un qu'on connaît, quand on a compris qu'il nous aime. Et là, on a envie de lui montrer qu'on l'aime en retour, et on va lui obéir. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on le connaisse avant tout le reste. Avant qu'on fasse quoi que ce soit pour lui, Dieu veut qu'on le connaisse. Mais comment connaître Dieu aujourd'hui ? Comment connaître Dieu aujourd'hui ? Dieu bénit l'obéissance. Si tu veux lui plaire, si tu as compris ce qu'il te demande et que tu fais ce qu'il te demande, tu seras béni. Dieu bénit l'obéissance et c'est la mise en pratique de sa parole qui va te faire grandir, nous faire grandir l'enfant. Si l'enfant sait ce qu'il a à faire et qu'il met en pratique, il va grandir. Et c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui va graver sa parole dans notre cœur. C'est de mettre en pratique qui va nous éviter d'être oublieux lorsque nous allons faire ce que Dieu nous demande. Mais la question reste, comment susciter la foi et l'amour pour Dieu chez l'enfant d'aujourd'hui, qui est constamment devant son écran? Comment susciter la foi qui va lui donner envie d'obéir à Dieu et qui va rendre cette chaîne de transmission solide? Comment susciter cette foi? Eh bien, voyons mon troisième point. Voyons qu'est-ce qui fait justement la solidité de la foi, de la chaîne de transmission de Dieu. Qu'est-ce qui va faire sa solidité pour qu'elle ne casse pas? Par nos propres forces, ça suffit pas. Cette chaîne, elle a parfois cassé. Mais elle peut être solide, incassable. Et voyons en quoi. Qui dit énigme, dit solution. La solution ne pouvait venir que de Dieu. Pour que cette chaîne de transmission ne s'interrompe pas. Et cette solution, eh bien, elle se trouve à la fin du psaume 78. On ne va pas lire tout le psaume, mais prenez les derniers versets, 70 à 72, que je lirai. Psaume 78, verset 70. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà comment se termine ce psaume. Après toute une série de descriptions d'Israël, ingrat, désobéissant. Ça se termine par une touche positive. Mais David, est-ce que c'est lui le sauveur? Non, David est mort. Mais de lui est sorti le sauveur. Dieu nous a suscité un berger plus grand que David, issu de la postérité de David, et vous l'avez compris, il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Alors là, ça commence à se concrétiser, la foi. Qu'est-ce qu'on veut que l'enfant croie aujourd'hui? Et une question se pose, et c'est important de savoir y répondre pour vous-même, pour votre propre famille. Est-ce que vous croyez que l'évangile est à la portée des enfants ou bien ils sont trop petits pour comprendre? C'est à vous d'y répondre. Est-ce que vous croyez que l'évangile est à la portée d'un enfant, aussi petit soit-il? Puisqu'il s'agit de croire avant d'obéir, ce qu'on dit la parole de Dieu. Est-ce qu'un enfant peut croire à salut? Et si oui, on nous a souvent posé la question, hein, à partir de quel âge un enfant peut comprendre? Alors, c'est une question importante. Et je vous propose de transformer cette question. Plutôt que de se demander à quel âge un enfant peut-il croire en Jésus, posons-nous la question, à quel âge un enfant peut-il comprendre qu'il est pécheur, qu'il a désobéi à Dieu? Déjà, il faut poser le problème. Et après, oui. Alors, s'il peut comprendre qu'il est pécheur, il va comprendre qui est Jésus, qui a payé pour lui. Pour comprendre que l'enfant est pécheur, il faut lui enseigner quoi? Les 10 commandements. C'est un minimum de la loi que l'enfant doit connaître. Parce que ce sont des commandements qui sont éternels et qui sont toujours valables, même s'ils ne sauvent pas. Si nous avons enseigné les 10 commandements, la loi morale de Dieu à l'enfant, eh bien, il va comprendre très tôt qu'en désobéissant à papa et maman, il désobéit à Dieu qui a dit « Honore ton père et ta mère », 5e commandement. Et la désobéissance à Dieu, ça s'appelle le péché. La loi morale de Dieu, les 10 commandements, elle est bonne et elle restera toujours d'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit comment honorer Dieu et comment vivre en société les uns avec les autres. Tout est là, dans le manuel d'instruction. Mais ça ne suffit pas. Parce que la loi morale de Dieu, elle révèle un problème que nous avons tous. C'est que nous sommes tous pécheurs. Et c'est que personne n'a eu 10 sur 10. Alors que pour entrer au ciel, il faut avoir eu 10 sur 10. Un seul péché suffit à nous séparer de Dieu. Personne n'a eu 10 sur 10. Eh bien, dès lors qu'un enfant comprend qu'il a désobéi à Dieu, quand il entend les 10 commandements, et donc, eh bien, qu'il mérite une punition, parce que Dieu est juste, eh bien, il peut aussi comprendre qu'il y en a un qui a eu 10 sur 10. Un qui ne méritait pas d'être puni et qui a accepté volontairement de se faire punir à sa place et à la nôtre. Comment? En mourant sur une croix. Le seul qui a eu 10 sur 10, dans son bulletin de notes, si on doit l'expliquer aux enfants, lui qui ne méritait pas d'être puni, eh bien, il a accepté de se faire punir volontairement en mourant sur la croix pour nous. Il s'agit bien sûr de Jésus, le Fils de Dieu. Et pour reprendre les termes du psaume, Dieu a montré ses miracles, ses prodiges et sa toute-puissance quand il a ressuscité Jésus. Quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts, quel miracle, quelle puissance pour rendre sa résurrection a rendu possible notre pardon. Oui, c'est pour nous que Jésus a obtenu 10 sur 10. Et si vous vouliez l'apprendre aux enfants, vous pourriez utiliser cette illustration. Mais c'est valable aussi pour nous. Si tu ne l'as pas encore fait, quel que soit ton âge, eh bien Jésus te propose d'échanger le bulletin de notes de ta vie contre le sien. Le bulletin de notes de ta vie, c'est peut-être 1 sur 10, peut-être 3 sur 10, allez, peut-être 7 sur 10. Mais ça suffit pas. Le sien, 10 sur 10. Si tu as compris que tu es pécheur, eh bien, demande-lui pardon pour les péchés que tu sais avoir commis. Pardon de lui avoir désobéi et fais-lui confiance. Il te donne son bulletin de notes. Il te le donne si tu lui demandes pardon et que tu crois qu'il s'est sacrifié pour toi. Il t'enlèvera ton péché. Et ça, un enfant peut le comprendre. Voilà les vérités premières qu'un enfant doit connaître. Et vous avez remarqué, on ne lui enseigne pas une religion. On ne lui enseigne pas une morale. Même si les 10 commandements sont la loi morale de Dieu. Mais avant tout, nous lui parlons d'une personne, nous lui parlons de Jésus. Jésus-Christ qu'il a aimé au point de donner sa vie pour lui. On peut vouloir de très bonnes choses pour nos enfants. peut vouloir qu'ils réussissent à l'école, qu'ils aient une bonne situation, qu'ils fondent une famille avec un conjoint qui plaise aux parents, aux beaux-parents, et qu'ils aient une belle maison. Mais la question que nous devons tous nous poser en premier, est-ce que nous voulons pour eux le plus important pour leur vie et le plus précieux pour leur vie, c'est-à-dire qu'ils connaissent Jésus et qu'il l'est comme leur sauveur? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants? La volonté de Dieu pour les enfants, Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut, qu'on le connaisse. Et l'enfant aussi, bien sûr. Il y a eu des personnes qui se sont converties très très jeunes. Et l'histoire a montré que les conversions de très jeunes enfants ont souvent donné des hommes et des femmes de Dieu consacrés. Et il y a un exemple que peut-être la plupart d'entre vous connaissent, c'est qu'il s'agit de Corrie ten Boom. Elle dit avoir été sauvée à l'âge de 4 ans. Et Corrie ten Boom, eh bien, c'est quelqu'un qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été internée en camp de concentration avec sa sœur pour avoir caché des juifs. Elle-même n'étant pas juive, elle était chrétienne. Elle s'est convertie à l'âge de 4 ans. Et miraculeusement, elle a été libérée par une erreur de l'administration. Et elle a passé le restant de sa vie à témoigner de ce que Dieu a fait par elle dans les camps de concentration. Elle a donné sa vie à Jésus à 4 ans. Alors oui, pour assurer une solide transmission, pourquoi ne pas commencer, si ce n'est pas déjà votre cas, pourquoi ne pas commencer un culte en famille, régulier à la maison, un culte centré sur Jésus et sur sa parole. On mange tous pour fortifier notre corps. C'est vital, c'est tout aussi vital de lire quotidiennement la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous rend fort face à la tentation. C'est elle qui rendra fort vos enfants face à la tentation. Et Dieu sait qu'il y en a dans notre monde. Le principal frein aux familles qui n'ont pas un culte de famille, c'est que certains ne se sentent pas théologiens, ils connaissent pas assez leur Bible, ils ont besoin d'outils. Parfois, il y a des parents qui demandent « Donnez-nous des outils ». Et effectivement, il y en a des bons pour établir un culte famille. Mais le principal outil, il est là. Et je reprends le titre de ce livre de Donald Whitney, qui encourage à établir un culte famille. Ça s'appelle « Lire, prier, chanter ». Lire la parole de Dieu. Prier, chanter la parole de Dieu en famille. Les enfants, ils aiment qu'on leur fasse la lecture. Il suffit de prendre un passage de la Bible, selon l'âge de vos enfants, court, plus ou moins long, de leur lire quotidiennement ces histoires qui sont vraies, avant d'aller dormir, ou le matin, avant d'aller à l'école. Avant de manger, eh bien, il existe des versets chantés. Chantons la parole, par exemple. Pas que. Il y a aussi des cours, des petits chœurs qui peuvent inscrire les vérités de la parole de Dieu dans leur cœur. Avant le repas. Et de cette manière, l'enfant va se fortifier. Et pour terminer, j'aimerais vous donner une citation de ce livre, Lire, prier, chanter, qui concerne les très jeunes enfants. Si vous ne savez pas comment vous y prendre avec les jeunes enfants, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il va comprendre dans ce que je lui dis, eh bien voici ce qu'il dit. Même si votre enfant n'a que 15 mois et ne comprend pas ce que vous dites, vous pouvez être sûr qu'il est en train d'apprendre. Si ses pensées enfantines étaient traduites en paroles d'adulte, vous entendriez quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce qu'on fait ici tous les soirs. Papa lit des choses que je ne comprends pas dans un grand livre. Puis tout le monde ferme les yeux et parle. Après quoi tout le monde chante. J'aime bien cela. Enfin, je ne sais pas ce qu'on fait, mais ça doit être important, puisqu'on le fait tous les soirs. Alors je vais prier. Oui Seigneur, merci parce que tu nous révèles ton cœur pour les enfants. Tu ne veux pas qu'un seul de ces petits ne se perde, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu sais aussi combien les enfants sont chers à leurs parents, Seigneur. Et tu donnes, Seigneur, les directives dans ta parole, tu donnes toute la marche à suivre. Tu veux que ta parole, tu veux l'inscrire dans leur cœur, Seigneur, dans notre cœur à chacun. Veuille, Seigneur, donner ce plaisir, cette joie aux familles, Seigneur, de se retrouver quotidiennement autour de ta parole, qui parle de Jésus, qui te présente, Seigneur, tout. toi qui es la parole. Je te prie d'enlever les barrières, les freins, tout ce qui peut décourager les familles qui ont peut-être fait une tentative d'établir un culte régulier, personnel, quotidien. Seigneur, veuille les encourager pour que les enfants eux-mêmes prennent goût, Seigneur, à lire ta parole quotidiennement, à s'en nourrir pour qu'ils deviennent forts face à la tentation. Seigneur, merci parce que nous savons, nous croyons que tu es fidèle. Et Seigneur, merci parce que malgré les infidélités d'Israël, malgré nos infidélités, tu restes fidèle. Et Seigneur, veuille pardonner nos infidélités, nos péchés. Et Seigneur, merci pour Jésus, parce que Seigneur, tu es là pour nous aider à grandir en toi, Seigneur, à faire ta volonté. Au nom de Jésus, amen. Amen.